Merci pour ce chant. Je crois qu'il n'y avait pas de plus beau chant. Je crois qu'il n'y avait pas de plus beau chant pour l'introduction. Si j'avais dit en choisir un, j'en ai choisi un pour la fin. Vous ne savez pas lequel, hein? Ça ne fait rien. Mais pour le début, je trouve que c'est vraiment chouette. Ça m'a fait quelque chose de chanter ce chant ensemble. J'aimerais aborder ce matin avec vous le troisième volet des cinq affirmations des réformateurs du XVIe siècle qu'il est indispensable de nous rappeler dans un monde qui de plus en plus s'éloigne du phénomène religieux et dans l'Église elle-même, celle de la terre, qui se dissout bien souvent dans ce même monde et perd non seulement cette saveur que le Christ nous demande d'être pour le monde, mais perd aussi bien souvent aussi les bases claires de la théologie de la foi. Je vous rappelle donc ces cinq points. Le premier, c'était sola scriptura, l'écriture seule. Le deuxième, c'était solus Christus, le Christ seul. Le troisième point, sola gratia, la grâce seule, que nous verrons aujourd'hui. Il reste encore sola fide, la foi seule, et sola deo gloria, à la gloire de Dieu seul. Nous abordons donc ce matin sola gratia, la grâce seule, la grâce de Dieu seul. Pour mémoire, les deux premiers volets, rappelons-nous que l'écriture seule, est la base intouchable et intemporelle du message de Dieu aux hommes, sola scriptura, et que le salut proposé passe uniquement et obligatoirement par le sacrifice du Christ. Le troisième volet aborde plus précisément le sujet de la grâce de Dieu. Les réformateurs exprimaient ainsi leur conviction que notre salut est accompli par l'œuvre médiatrice historique de Christ seul. Sa vie sans péché et son œuvre expiatoire seule suffisent pour notre justification et notre réconciliation avec notre Père. Les pasteurs, théologiens, éducateurs réunis à Cambridge en 1996, alertèrent les églises sur les dérives de libéralisme de certains milieux religieux, notamment évangéliques, inspirés par les fausses doctrines sur la confiance dans les capacités humaines poussées à l'extrême, l'estime de soi avant tout, l'évangile de la santé, de la richesse, de la prospérité, la vente du message évangélique à la carte à des pécheurs devenus de simples consommateurs complaisant. Tout cela rappelle leur déclaration finale, dénature la doctrine de la grâce et de la justification et la réduit au silence. Au contraire, la grâce de Dieu en Jésus-Christ est l'unique et indispensable cause efficace du salut. Car l'être humain est né spirituellement mort, il est né mort, c'est curieux comme formule, mais l'être humain est né mort et incapable de collaborer à la grâce régénératrice de Christ, tout seul. La déclaration de Cambridge continue, « Nous réaffirmons que par le salut, nous sommes délivrés de la colère de Dieu. Nous réaffirmons que par le salut, nous sommes délivrés de la colère de Dieu. Et cela par sa grâce seule. » C'est l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit que de nous conduire au Christ en nous libérant de notre esclavage au péché, en nous ressuscitant de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Nous déclarons, continue cette déclaration de Cambridge, nous déclarons que le salut n'est en aucun sens une œuvre humaine. Les méthodes, techniques, stratégies humaines ne peuvent par elles-mêmes accomplir cette transformation. La foi ne peut pas être produite par notre propre nature humaine non régénérée. Point. Là, on peut le relire 10 fois et puis 10 fois se reprendre chacun. J'aimerais vous lire un passage que j'ai à cœur vraiment, qui va s'afficher, qui est le deuxième chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est un texte que nous utilisons dans la préparation au baptême parce qu'il reprend des points très importants. On lit ces 9 premiers versets. C'est Paul qui s'adresse aux Éphésiens. Il leur envoie cette lettre. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon la prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Boum. Mais Paul continue, « Nous tous aussi. » Donc, cette lettre s'adresse aussi à nous. Parce que Paul lui-même se met dans ce même groupe, tous ensemble. « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, le nombre des pécheurs, des morts. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissons les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Il n'y a pas deux sortes au début. Tous sont pécheurs. Mais Dieu, verset 4, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et au verset 8, nous lisons ces deux versets importants pour notre vie de chrétien. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est un texte qui est fort, je vous invite à le relire, à prendre tous les mots qu'il y a dedans. Regardez comment ils sont posés. C'est super intéressant et ça nous met vraiment tout petit parce que l'apôtre Paul se met d'abord, lui le premier, pourtant c'est Paul, mais le premier dans cette dépendance de Dieu. Après avoir lu ce texte d'Éphésiens 2, après avoir entendu cette mise en garde de Cambridge, il me semble que la seule question qu'il est nécessaire de nous poser à nous, c'est en fait, qu'est-ce que c'est que cette grâce ? Qu'est-ce que c'est que cette grâce ? Le nouveau dictionnaire biblique lui consacre un article fourni, qui commence par dire la chose suivante. Dans l'Ancien Testament déjà, se trouve exprimée la pure bonté de Dieu, qui aime le pécheur et désire non pas sa mort, mais sa conversion et sa vie. Et je vous lis juste un passage d'Ézéchiel, Ézéchiel 18, 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et s'il pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Et au verset 23 d'Ézéchiel 18, « Ce que je désire, est-ce que c'est que le méchant meure ?» dit le Seigneur, l'Éternel. « N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Le nouveau dictionnaire biblique rajoute un peu plus loin dans son commentaire les quatre points importants qui semblent particulièrement caractériser cette grâce de Dieu envers les hommes. Elle est venue par Jésus-Christ seul, c'est-à-dire que l'homme n'y est pour rien, nous n'y sommes pour rien, nous n'y pouvons rien, c'est presque contre notre gré, à l'insu de notre plein gré, ça vous parle ? À l'insu de notre plein gré, là. Deuxième point, elle éclate à la croix, par le sacrifice du Christ. C'est pas pour rien qu'on a des croix dans nos églises, pas pour rien que les hommes ont mis ce symbole pour se souvenir, se rappeler d'eux. Par le sacrifice du Christ, non pas par nos actions. Troisième point, elle ne peut être reçue que par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Idée que nous devons accepter par la foi et faire nôtre. Et enfin, quatrième point, ses effets en nous, les effets de cette grâce, sont nombreux, merveilleux, complets. On les chante dans notre temps de louange. Un pasteur a un jour essayé de définir la grâce en disant qu'elle était l'acte par lequel un être supérieur se penche sur un être inférieur pour lui accorder un bien qu'il ne mérite pas. Je le relis parce que c'est juste poser les mots là où il faut. l'acte par lequel un être supérieur, Dieu, se penche vers un être inférieur, les hommes, l'homme, pour lui accorder un bien qu'il ne mérite pas. On ne mérite pas cette grâce de Dieu. On n'a rien fait pour. Dans le contexte biblique, la grâce désigne la faveur imméritée de Dieu à l'égard de l'homme déchu, de celui qui est tombé avec la chute, par laquelle il pourvoit en Jésus-Christ à sa rédemption. Il y a donc ce mouvement de chute de l'homme et ce mouvement de grâce qui fait remonter dans l'éternité. Depuis toute l'éternité, il a déterminé d'accorder, Dieu, cette faveur à tous ceux qui croiraient au sacrifice du Christ, Seigneur et Sauveur. Si la grâce est donc indispensable au salut de l'homme, c'est aussi par grâce que le croyant est rendu capable de persévérer jour après jour dans sa vie chrétienne. Nous l'avons dit plus en avant, les effets de cette grâce sont nombreux en nous, merveilleux, complets. Ajoutons encore des idées comme, ou des pensées comme, dans sa miséricorde, Dieu retient tout ce que nous, pécheurs, nous méritions naturellement. Colère, jugement, condamnation, de tout ça par grâce, Dieu nous épargne totalement. Tandis que dans sa grâce, il nous comble des innombrables biens que nous ne méritons pas. Et nous ne recevons pas, au contraire, ce que nous méritons. Toutes ces tentatives de définition nous laissent un peu sur notre faim, car nous sentons instinctivement que la grâce échappe à notre schéma humain, échappe à aux catégories humaines connues où on aime bien classer les choses. Elle dépasse nos raisonnements, elle dépasse bien souvent les limites de notre compréhension humaine ou de notre langage. Tant ça paraît mystérieux et loin des fois. Elle reste donc, par conséquent, relativement indéfinissable. C'est pourquoi l'Écriture n'explique pas la grâce. Pas vraiment. Elle la déclare, elle la déclame, elle l'annonce dans toute une série d'affirmations que nous trouvons dans des versets, dans la plupart des livres de la Bible. Je vais vous en donner quelques-uns. Quelques-uns vont s'afficher, pas tous. Exode 33, 19. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Deutéronome 7, versets 7 à 9. Tous ces vieux livres, qu'on considère comme des livres historiques qui racontent l'histoire, ils parlent déjà tous de la grâce. Deutéronome 7, 7. « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous ces peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous ces peuples. » Ça, c'est ce qu'il dit au peuple d'Israël. « Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir de sa main puissante, par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sachez que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. » Psaume 130, verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Puis au verset 7 et 8, Israël, peuple de Dieu, mets ton espoir. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. Et puis quelques versets où il y a le mot « grâce » dedans, qu'on va trouver aussi dans la Bible en abondance. Jean 1, 16, 17, « Nous avons tous reçu dans sa plénitude grâce pour grâce. La loi a été donnée à Moïse, a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Romains 3, 23, « Tous ont péché. » Tout le monde connaît ce verset, enfin tout le monde, j'espère. Tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, pardon, sont privés de la gloire de Dieu, excusez-moi. Ils sont justifiés par sa grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. De Corinthiens 8, verset 9, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Et enfin, Éphésiens 2, 8, 9, dont on a déjà parlé tout à l'heure, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » On va trouver dans la Bible un tas de versets qui vont parler de la grâce, qui vont être des exemples, autant dans l'Ancien Testament avec d'autres mots que dans le Nouveau Testament. Mais ces versets ne vont pas s'étendre sur une explication précise de ce qu'est la grâce. Ils vont plutôt s'étendre sur ce que produit la grâce. Peut-être l'illustration la plus saisissante dans le texte biblique est celle de l'accueil réservé par le Père à son fils dans la parabole du fils prodigue, racontée dans Luc 15, versets 11 à 32, que nous résumons ci après. Et je vous invite à réfléchir, est-ce que le vrai titre, c'est le fils prodigue ou est-ce que c'est le père prodigue? Vous réfléchirez à ça un petit peu plus. Au chef religieux qui lui reproche de fréquenter les gens de mauvaise vie, dans Luc 15, 1 à 2, Jésus administre une série de chocs thérapeutiques en leur racontant les paraboles de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils prodigue. Le père de cette dernière parabole fait plusieurs entorses incroyables aux coutumes de son époque. Confronté à la demande outrageante de son fils cadet, même pas l'aîné, qui ne souhaitait sans l'avouer que sa mort, puisqu'il veut l'héritage, celui-ci, au lieu de le désavouer, de le jeter dehors, de l'exclure de la famille et de le bannir publiquement de la communauté, lui accorde de suite tout ce qu'il réclame. De nos jours, ça nous choquerait moins. Non, c'est vrai, ça nous choquerait moins. Il y a beaucoup de personnes qui vont partager leurs biens au moment de la retraite, par exemple, en avance. Moi, je trouve ça super. Bon, bref, chacun fait comme il veut, mais ça nous choquerait moins. Là, c'était le patriarche. Non, non, les enfants, non. Bon. Je pense que ce n'est pas ce à quoi je pensais spécialement. Non, c'est ce que mes parents ont fait, et ils sont encore en vie 30 ans après la retraite. Et je trouve que c'était très sympa de le faire. C'était très, très... C'était judicieux. Voilà. Faut pas rêver, hein. Bon. Cette parenthèse Samia étant terminée, je reprends où j'en étais. Donc, au lieu de désavouer, de l'exclure de la famille, de le bannir publiquement, il lui accorde de suite ce qu'il réclame. Imaginons là les commentaires des personnes bien pensantes de l'église locale. Les nôtres. Et cela ne va pas s'arranger par la suite. Ni pour le fils, ni pour son père, ni pour son frère, ni pour le père et pour sa réputation. Le fils a, semble-t-il, dans l'histoire, assez vite dilapidé ce qu'il avait, tout son héritage. Vous le savez, il est tombé dans la misère, devenu sans ressources, SDF, clochard. Et dans ce qui nous paraît bien plus être motivé par des calculs intéressés, il avait faim, il n'avait plus rien, nulle part où aller, plus par ses calculs que par une amorce de repentance sincère, il s'engage sur le chemin du retour à la maison, c'est-à-dire il marche de nouveau vers la maison. Et c'est là que nous assistons à une des scènes les plus inattendues, les plus bouleversantes de l'Écriture sainte. Le Père attendait. Le Père attendait. Le Père attend. Il guette le long du chemin. Il a sans doute, cet homme, beaucoup prié. Et un jour, il reconnaît de loin ce garçon qui arrive en haillons, sale, affamé, perdu, hagard. Voilà enfin l'occasion venue de montrer à ce jeune rebelle qui a l'autorité dans la famille. De lui rendre ce qu'il mérite, de le houspiller haut et fort devant témoins, peut-être même de convoquer une réunion de la famille sceptique pour juger de la gravité de sa faute, et ensuite le mettre sous le contrôle d'un tuteur. Bien plus que de s'intéresser ou de s'interroger sur l'éventuelle valeur de sa démarche ou de sa repentance. Eh bien, pas du tout. Non. Là, le scénario est totalement inattendu et fou. Le père va se livrer à un spectacle certainement humiliant. Humiliant pour un patriarche oriental de son rang et de son niveau. Aux yeux des badauds, surpris, ébahis certainement, il relève le pan de sa tunique pour pouvoir courir encore plus vite à la rencontre de son fils, qui revient, pour se jeter à son cou, le prendre dans ses bras et embrasser ce clochard en haillons, lui disant qu'il l'aime, malgré son apparence et probablement malgré son odeur. Jésus dira en substance aux scribes et aux pharisiens, « Vous me reprochez de manger avec des pécheurs et des péagers ?» Parfait. Mais non seulement je mange avec eux, mais je les attends, je les guette de loin, et quand ils s'engagent sur le chemin du retour, je cours à leur rencontre, je les couvre de baisers, je les force à entrer chez moi pour festoyer avec moi. Réfléchissons un petit peu à notre ego personnel. Si le Seigneur avait dû attendre de moi personnellement, chacun, l'épreuve d'une repentance parfaite, totale, accomplie, il n'aurait jamais couru à ma rencontre. Cela s'appelle la grâce. La grâce stupéfiante, incompréhensible, insaisissable, totale, suffisante. Une grâce qui prend cette initiative en main. Du moment que le garçon accepte d'être accueilli, embrassé, reçu de nouveau par son père dans la famille, alors là, on peut en déduire qu'il commence à passer par une repentance véritable, en tout cas dans notre schéma de pensée. Du père et du fils qui est revenu, qui des deux aura le plus dépensé ? En argent, si vous voulez, en matériel, mais en amour. Lequel aura le plus dépensé ? Combien coûte à Dieu la grâce qu'il nous donne à nous personnellement, qu'il nous prodigue jour après jour ? Combien elle lui coûte ? Voilà une réflexion qui peut changer notre façon de lire cette parabole et de comprendre la grâce de Dieu. Je vais vous raconter l'histoire de John, pas Winston, je ne la connais pas suffisamment, de John Newton. Vous connaissez John Newton ? Peut-être. Vous le connaissez, John Newton. En tout cas, vous allez voir après que vous le connaissez. Vous savez qui c'est. John Newton a été élevé dans une famille chrétienne. Très vite, il a perdu ses deux parents. Il n'avait pas 6 ans. Il a été placé chez un parent totalement incroyant, très très dur, qui menait une vie effroyable et qui a fini par régulièrement abuser de lui. Arrivé à l'adolescence, pour échapper à ces conditions terribles, John Newton s'engagea dans la marine britannique, où il mena une vie de débauche sans limite. Il déserta, s'installa en Afrique pour vivre dans une dégradation inqualifiable de toutes sortes d'expédients, tous les plus vils les uns que les autres. Un grand pécheur, certainement, aux yeux de Dieu. Voulant quitter enfin l'Afrique, il se fit embaucher comme navigateur et devint négrier sur un bateau de transport d'esclaves, où il continua sa vie dévergondée. Un jour, il réussit à forcer le cadenas du local où était stocké le rhum. Il se saoula au point de perdre son équilibre et, en plein milieu de l'océan, de tomber dans l'eau. Un officier, pour le rattraper, lança un harpon qui lui transperça la cuisse. Mais il arriva à le remonter sur le bateau. Il portera toujours une énorme cicatrice au milieu de sa jambe. Vers la fin de ce voyage, le navire entra dans une tempête violente, perdit son cap et commença à sombrer. Newton fut envoyé dans les soutes, là où gisaient les esclaves, avec l'ordre d'actionner les pompes. Pendant des jours et des jours, terrifié et convaincu que la mort était proche, il pompa l'eau. Et tout d'un coup, recommença à prier le Seigneur, un petit peu comme Jonas dans son poisson. Et tout d'un coup, des versets bibliques appris sur les genoux de sa maman avant 6 ans, qu'il croyait qu'il avait oublié depuis longtemps, lui revinrent en mémoire. Il fut miraculeusement transformé par la grâce de Dieu et d'un coup engendré de nouveau, né de nouveau. Finalement, le bateau ne fit pas naufrage. Rentré en Angleterre, John Newton devint un prédicateur puissant de la parole de Dieu. Il eut même l'occasion de prêcher devant la reine. Et c'est en remémorant les circonstances, de sa conversion, qu'il composa les paroles d'un des plus célèbres hymnes à la gloire de Dieu que le monde entier connaît, Amazing Grace. Simplement. Il avait appris, comme tout chrétien, que la grâce de Dieu dépasse toutes nos catégories et que cette grâce a trouvé son expression suprême dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et je vais vous lire les paroles en français, c'est une des traductions d'Amazing Grace, parce que c'est un très beau chant, et quand on a lu l'histoire, ça donne un autre relief à ce chant qu'on connaît et qu'on aime chanter, toujours, qui nous prend un petit peu aux tripes, qui nous fait un petit peu hérisser les poils des bras, mais imaginons d'où il vient. Grâce étonnante au son si doux qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est ta grâce qui m'a enseigné la crainte et ta grâce a soulagé mes craintes. Combien précieuse cette grâce m'est apparue à l'heure où la première fois j'ai cru. De nombreux dangers, filets et pièges, j'ai déjà traversé. C'est la grâce qui m'a protégé jusqu'ici, et la grâce me mènera à bon port. Le Seigneur m'a fait une promesse, sa parole a fermi mon espoir. Il sera mon bouclier et mon partage tant que durera ma vie. Oui, quand cette chair et ce corps auront péri, et que la vie mortelle aura cessé, je posséderai dans l'au-delà une vie de joie et de paix. La terre fondra bientôt comme la neige, le soleil cessera de briller, mais Dieu qui m'a appelé ici-bas sera toujours avec moi. Il y a d'autres chapitres qui ont été rajoutés beaucoup plus tard à ce Amazing Grace, mais ça, ce sont les termes que John Newton a écrits à son retour en Angleterre. Je crois que c'est une belle image de la grâce de Dieu, et je crois qu'on pensera à John Newton quand on chantera ensemble une fois Amazing Grace. Amen. Je vous invite à un petit temps de prière et de réflexion. Vous pouvez prier librement si vous le souhaitez. Seigneur, nous comprenons ce matin avec ces textes que cette grâce nous dépasse, que nous n'y pouvons rien en fin de compte, parce qu'elle vient de toi. Nous devons être reconnaissants, Seigneur, parce qu'elle est sans condition pour nous et parce que tu la donnes à tous les hommes, quelles que soient leurs conditions, justement. Merci de pouvoir nous approcher de toi par cette grâce. Merci pour cette main que tu nous tends par cette grâce. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions la trouver, la garder, rester près de toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.
Bonjour à chacune et chacun. Je partage avec vous les annonces du programme de la semaine. Malgré les vacances, il y a quelques activités cette semaine. Tout d'abord, demain, il est prévu une rencontre de la commission travaux. Alors, je propose aux membres de la commission travaux qu'on se retrouve devant la salle tout de suite après le culte pour qu'on voit la nécessité de la rencontre de demain, puis que l'on voit ce qu'on fait exactement. Mardi, le conseil, à 19h30. Jeudi, la commission travaux, qui aura bien lieu. Donc, on reçoit les architectes qui vont nous présenter le dossier de permis de construire. Merci de penser à cela aussi, de prier pour cela. Dimanche prochain, notre culte. Dimanche prochain, en début d'après-midi, une réunion préparation club d'été. Ah, du club. Alors, c'est le club d'été. Hein. Ça n'a pas encore changé de nom. Ça va se passer comme ça. Donc, il y aura la rencontre. Pendant la rencontre, on va démonter le matériel de la sono. Et vu qu'on a déjà les clés de la salle, on va déjà commencer à l'installer pendant la rencontre et on pourra faire la répétition à la salle Gaston Laverrière après la rencontre. Une annonce pour la semaine d'après. Donc la semaine d'après, tout le monde le sait, tout le monde est au courant, c'est le club d'été qui commence le 14. Alors, mercredi, au milieu de la semaine, il y aura une réunion de prière. Donc, une réunion de prière, donc le mercredi 16, voilà, à 17h30, pendant une heure, donc de 17h30 à 18h30, à la salle Gaston Laverrière. Donc chacun est invité. C'est important qu'on soit aussi nombreux pour porter ce projet dans la prière. Et puis ensuite, cette rencontre sera suivie par un repas qui est réservé aux bénévoles de cette semaine. Alors ce repas est réservé seulement aux bénévoles, parce que je crois qu'il y a une soixantaine de bénévoles. Plus les conjoints, ça fait déjà un joli groupe. Et puis le but de ce repas aussi, c'est d'assurer aussi la cohésion en milieu de semaine entre l'équipe. Donc ce n'est pas du tout que les personnes qui vont se déplacer pour prier ne sont pas les bienvenues, mais c'est simplement que ça ne correspond pas au but de ce repas. Et puis je vais laisser la place à Isabelle qui a une annonce à faire par rapport au club d'été.
Bonjour. Vous avez peut-être reçu un mail où j'ai fait appel à vos fonds de tiroir. Vous savez peut-être le thème du club, c'est Jonas. Et donc, chacun sait qu'il avait une ligne directe avec Dieu. Donc, nous allons fabriquer entre autres des pochettes, des housses pour le téléphone. Et je faisais appel donc à vos fonds de tiroir. Alors, j'aurais besoin de boutons. Donc, ça, c'est un modèle, hein, c'est juste un exemple. Voilà. Donc, si tu peux passer à la suivante. Pour ceux qui n'ont pas eu le mail, donc je vous ai fait une liste. J'aurais besoin de poinçons, un peu comme ça, très pointus, pour piquer dans le simili-cuir. Donc, si vous avez des choses comme ça, ce serait bien. J'aurais besoin de carton épais pour pouvoir découper dessus, utiliser. Pour les moustaches, je ne sais pas du tout où trouver du fil noir comme ça, en nylon, un peu souple. Ce n'est pas du métal, ce n'est pas de l'acier, c'est vraiment du nylon. Donc, si jamais vous arrivez à trouver, à me donner des idées pour ça aussi. Des rubans de satin, de dentelle, du fil à broder, la feutrine, de la laine, enfin voilà, toute la liste. Des blocs de polystyrène, je ne sais pas s'il y en a qui ont ça, pour piquer les aiguilles dedans, pour les garder. Non, personne? Bon. Ok, je compte sur vous pour cette semaine, je vais essayer de me débrouiller aussi, mais bon, si jamais vous avez, ce serait super. Voilà, donc vous avez normalement reçu un mail, sinon je peux vous l'envoyer si vous ne l'avez pas reçu, vous me le dites. Merci.
Merci pour ces informations toutes pratiques, mais importantes quand même. Quelques annonces concernant le programme, un petit peu à l'avance. C'est vrai que c'est maintenant la période des vacances, donc un petit peu le chassé-croisé pour ceux qui vont partir. Je rappelle que le culte à la Lècherolle aura lieu le 24 août. Le week-end du Col des Mosques qui aura lieu pile au milieu du mois de septembre, donc le 13 et le 14. Et puis aussi une information pour la rentrée, mais qu'il est important de connaître maintenant. Il y a une nouvelle série d'Alpha Couple. Vous savez, ces rencontres, elle et lui, spécialement dédiées aux couples, qui va commencer dans le cadre de la pastorale et aussi tout particulièrement avec Yann Rutter. Donc la première rencontre aura lieu le 18 septembre. Je vous redonnerai des informations, mais c'est important d'y penser pour savoir si vous êtes intéressé d'y participer. Sinon, une dernière annonce, Béatrice Nicoletta, qui est présente ce matin au culte, va commencer une formation à l'Université de Genève, une formation en maîtrise de médecine dentaire pour une durée de 3 ans. Béatrice cherche donc un appartement à Genève. Alors si quelqu'un parmi nous connaît une opportunité ou peut-être une connaissance qu'il pourrait connaître, On sait tous que ce n'est pas facile de trouver un appartement à Genève. Donc voilà, si on peut faire le relais ou un lien, faisons-le. Soutenons-nous aussi pour ces choses toutes pratiques. Sinon, je vous invite à vous lever. Et je vais vous lire trois versets dans Psaume 33. Les trois derniers versets, « Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Amen. Soyez bénis dans la grâce de Dieu pendant cette semaine. »